C'est le travail de quatre étudiants du master architecture de l'information qui ont pris pour objet d'étude le site d'Elea et pas seulement le site, mais les modalités de communication à l'intérieur du réseau. Ils l'ont fait à la demande du comité de pilotage qui voyait bien qu'il y avait des problèmes à ce niveau-là et qui avait envie de dynamiser, d'améliorer cette communication et aussi le partage d'informations à l'intérieur du réseau. Et ils ont fait ça très bien, d'une façon très intéressante, qu'ils vont donc vous présenter maintenant.
Nous sommes tous les quatre étudiants donc, en fin de première année de master d'architecture de l'information. Nous allons vous présenter le fruit d'un travail de 4 mois lié à ce master. L'intitulé de ce projet était une conduite de projet. Effectivement, nous avons répondu à l'appel de l'IFE. Notre plan du jour, donc d'abord un point sur ce qu'est l'architecture de l'information, histoire de vous resituer le cadre de nos études. Ensuite, notre rencontre avec ce dispositif, d'abord par l'intermédiaire de l'IFE, mais ensuite grâce à vous tous. Ensuite, notre démarche. Une démarche, donc, on va vous redétailler tous les éléments qui nous ont permis d'aboutir à une solution qui a été choisie parmi 3 solutions par le commanditaire, c'est-à-dire l'IFE. Et enfin, la solution choisie, ses caractéristiques, ce qu'elle se propose de vous apporter. Et bien sûr, nous attendons beaucoup de vos retours. Nous avons besoin de vous pour permettre de voir si on est dans le bon chemin, si on peut encore améliorer des choses. Voilà, c'est encore en construction et ça se construit avec vous. Laurent prend la parole.
Bonjour à tous. Donc, ma collègue Sandrine a mentionné dans la présentation le mot d'architecture de l'information. Donc, je prends la parole moi brièvement pour vous présenter un petit peu ce que c'est. Donc, c'est un terme qui vous est peut-être pas familier. Ça désigne en fait toute la vaste corporation des gens qui travaillent à créer des interfaces numériques et à les améliorer, voilà, selon certains besoins. Donc, pour vous donner une illustration, par exemple, l'un des groupes de travail de notre master qui travaillait conjointement à nous, a aidé le musée du Louvre à rendre plus agréable toute sa base de données d'épigraphie grecque sur son site internet. Donc ils ont eu un travail tout à fait passionnant et passionné. Et nous aussi, puisque nous avons donc collaboré avec l'IFE pour optimiser toute la partie numérique du réseau et tout particulièrement le site internet déjà existant. Donc comment a-t-on travaillé? Alors on a eu un travail, en fait une démarche assez similaire à celle d'un architecte de l'intérieur. Voilà, vous voyez donc cet intérieur là, ce salon, et quand vous le voyez, vous vous dites que la personne qui l'a conçu a sûrement pensé au moment de son ébauche au circuit que les gens vont y emprunter, aux habitudes que les gens vont prendre, aux besoins pratiques qu'ils auront quand ils y circuleront, et à l'esthétique du décor aussi. Donc c'est à peu près exactement en fait les questions qu'on s'est posées quand on a eu à faire le site internet, enfin à repenser le site de l'IFE et les outils qu'on vous montrera après. Donc Larita, tu peux switcher. Voilà, on s'est demandé par exemple, est-ce que la navigation qu'on va vous proposer sera fluide? Quels seront vos réflexes? Est-ce que vous êtes familier avec les sites internet ou pas? Les mails sont-ils les meilleurs moyens de communiquer? On s'est posé des questions au niveau de la communication aussi. Quand on a mis les choses en page, on s'est demandé si on n'avait pas intérêt à déplacer tel encadré pour le rendre plus visible ou plus accessible. Voilà. Voilà les questions qu'on s'est posées. Donc pour poursuivre cette analogie, là, donc un architecte lui doit bien connaître ses matériaux qu'il utilise. Nous, on a nos matériaux à nous, c'était donc les logiciels et tout ce qu'on peut trouver sur Internet à notre disposition. Donc il nous fallait une bonne culture à ce niveau-là et le master nous y a aidés. Le plus intéressant, c'est qu'en fait, il y a aussi une analogie au niveau théorique. Là. Donc, de la même manière qu'un architecte ne peut pas mettre un mur porteur n'importe où et doit bien s'y connaître au moment de la concrétisation de son projet, nous-mêmes, on a dû s'appuyer sur une très bonne base théorique et nos professeurs nous y ont aidés. Et le maître mot était toujours de penser nos solutions en fonction de vous, c'est-à-dire de se mettre à votre place à chaque fois qu'on crée une page, quelque chose. Et donc, ça ne se fait pas sans certains prérequis théoriques. Et donc, évidemment, c'est basé sur des enquêtes. Et il nous fallait les retours de certains Léa de Lyon pour pouvoir s'appuyer sur ce que vous pensez, ce que vous estimez être la, les bonnes choses, mais au moment de réfléchir à tout ce qu'on avait recueilli, il a fallu donc s'appuyer sur les conseils de nos professeurs et puis réfléchir à mettre en place une architecture de l'information. Et donc pour ça, il y a certains fondements bien établis et certaines règles à respecter qui montrent que l'architecture de l'information est une véritable discipline. Donc une anecdote qui vous résumera peut-être notre travail. On a eu une discussion avec Rita, qui prendra la parole après, la semaine dernière, en pensant à cette réunion. Et je lui ai dit, j'espère que quand les outils seront mis en place pour les acteurs des Léa, ils se poseront énormément de questions et qu'ils auront matière à réflexion. Et elle m'a repris en me disant, s'ils se posent trop de questions, c'est peut-être pas bon signe. Et c'est peut-être que ce qu'on leur propose n'est pas assez intuitif, n'est pas assez spontané. Donc si, à tout hasard, quand tout sera en place, si vous utilisez les outils et que vous vous posez peu de questions, c'est peut-être plutôt bon signe, et c'est peut-être le signe que nous, on s'en est posé beaucoup et qu'on a réussi à y répondre. Voilà. Donc je vais passer la parole à Amandine, qui va vous présenter concrètement les solutions qu'on a mises en place.
Bonjour. Alors, du coup, le projet qu'on a mené, c'est le fruit d'une rencontre entre, finalement, deux entités de l'IFE, puisque ce sont les Léa et puis notre master, le master architecture de l'information, qui est rattaché à l'IFE. Donc au départ, comme l'a dit Sandrine, ce projet s'est inscrit dans notre UE conduite de projet, une UE où on nous a proposé trois projets, donc un sur la médiation numérique de l'épigraphie, un sur la mise en place du web sémantique sur le site internet de la Cité de la Musique, et puis le projet Léa, qui était présenté comme étant l'amélioration de la communication au sein du réseau des Léa. Notre répartition sur ces projets s'est faite de manière assez naturelle, en fin de compte, parce qu'on s'est répartis par affinité pour les projets, ce qui fait qu'on a vraiment tous les quatre choisi de travailler sur ce projet parce qu'on avait des raisons personnelles et propres à chacun d'entre nous qui nous ont poussés à vouloir travailler sur ce projet. Et en fait, en commun, ce qu'on avait, c'était aussi l'envie de prendre part à un projet vivant, récent, où il y avait beaucoup de choses à penser et à construire. Donc ça nous a beaucoup motivés. Et en fin de compte, ça a été vraiment une bonne expérience pour nous tous. On a énormément appris sur ce projet, tant en architecture de l'information qu'en design centré utilisateur, et aussi en conduite de projet, mais également en travail d'équipe. Et donc je vais passer au retour précisément sur notre démarche, notre expérience, en retraçant les grandes étapes de cette expérience. Donc on a commencé par recevoir une commande qui était sous la forme d'un cahier des charges qui présentait le contexte, les enjeux et puis les difficultés qu'on a commencé par annoter et surligner pour passer à une seconde étape qui était la reformulation nécessaire du projet. Alors, on a commencé par faire une synthèse de notre compréhension du dispositif, de ce qu'il était, des acteurs, des outils. Et puis on a reformulé le projet lui-même avec des expressions comme « repenser les outils », organiser l'accès à l'information, favoriser les interactions. Et on a identifié quelques difficultés qui étaient propres au réseau ou propres à notre master parce qu'on était limité dans le temps, n'avait pas forcément toute la semaine à chaque fois pour travailler dessus. Et donc on a abouti à cette carte heuristique qui est assez tentaculaire, donc comme vous avez vu, qu'on a présentée lors de notre première réunion avec le comité de pilotage pour validation. On a également, lors de cette première réunion, demandé donc la constitution d'un comité de pilotage particulier avec un représentant hiérarchique, un responsable organisationnel qui serait notre correspondant permanent, un responsable technique aussi et un représentant utilisateur. Donc on souhaite ici vraiment remercier toutes ces personnes pour leur disponibilité, donc Luc Trouche, Réjeanne Mouneau-Ansalbi, Catherine Loisy, Nicolas Favelier, Benjamin Brial et Aristide Criquet. On a vraiment apprécié de travailler avec vous parce qu'on a senti en fait qu'on travaillait pour un projet derrière lequel il y avait vraiment des gens enthousiastes et très motivés. Ensuite, on a commencé à se documenter sur les Léa pour bien comprendre où on mettait les pieds en fait. Donc on a lu tout ce qui était sur le site, toute la documentation. On a également lu les mémoires de Lara Laflotte et de Delphine Ordas. Et on a eu accès aux enquêtes que Lara Laflotte avait effectuées. Et ça nous a permis donc de voir où étaient nos besoins d'information pour construire notre propre enquête derrière. On a donc essayé d'avoir une vision à la fois large et précise du réseau pour construire notre enquête. Notre enquête, donc, c'était l'idée que pour construire un outil, il fallait absolument qu'on connaisse nos utilisateurs. Ce qui fait qu'on a, proposé, construit des entretiens semi-directifs, donc, qu'on a proposé à une dizaine de personnes qui représentaient à la fois des correspondants Léa, des correspondants Effet et aussi des membres du comité de pilotage. On a ciblé les utilisateurs proactifs pour des raisons de temps, en fait. Mais ça ne nous a pas empêché, de voir quand même qu'il y avait une vraie diversité des pratiques, même au sein des utilisateurs proactifs du réseau. On voulait ici aussi remercier toutes les personnes avec qui on a été en contact pour ces enquêtes, que les entretiens aient abouti ou non. Et parce qu'avec vous, on a pu échanger sur ce réseau et découvrir, via votre regard, combien il était complexe et intéressant à se développer. Donc, voilà.
Merci. Alors, de cette enquête, il fallait faire quelque chose, et c'est là que l'architecture de l'information intervient de manière spécifique, puisque en architecture de l'information, on a une méthodologie un peu particulière pour présenter les résultats d'une enquête utilisateur, et ça a un nom, ça s'appelle des personas. Alors, les personas, c'est des utilisateurs archétypaux qui ont chacun un nom, une histoire. Des besoins, des attentes spécifiques. Et l'idée, c'était de transformer toutes les données qu'on avait recueillies à travers les entretiens en des problématiques très spécifiques à une personne, en fait, qui représenterait à elle toute seule un groupe d'utilisateurs. Et c'est ça qui, finalement, nous permet d'avoir une analyse critique fine de l'existant, pour commencer, et puis qui nous permet de... C'est autant de garde-fous ou d'outils heuristiques pour réfléchir ensuite aux solutions qu'on peut proposer. Donc pas aller dans quelque chose de trop génial mais superflu, et pas non plus proposer quelque chose en dessous de ce dont les gens ont réellement besoin. Donc je les présenterai très rapidement. Donc on a eu Jasmine qui est chercheuse et dont la problématique essentielle était de s'inscrire dans le réseau et de dynamiser le réseau. Didier, qui est un représentant de l'IFE et dont le besoin principal est la circulation de l'information à l'intérieur du réseau ainsi que la remontée de l'information. Alice, qui serait plutôt professeure associée et qui, elle, bute sur les outils que propose le réseau Léa. Et puis Boris, qui est un nouvel arrivant, ou en tout cas un candidat potentiel à l'intégration, et qui, du coup, se demande mais comment je vais faire pour m'intégrer dans ce réseau-là. Alors, donc je ne vais pas tous vous les présenter en détail, mais au moins un exemple. Donc, on a choisi de prendre l'exemple d'Alice pour montrer que elle a un nom, un âge, elle vient, elle a une histoire qui détermine ses attentes, qui détermine ce qui la motive et ce qui la freine. Donc une fois qu'on a fait cette liste-là, il s'agit de transformer ses besoins, ses attentes, mais aussi ses freins en fonctionnalités qu'il serait possible de développer. Et puis, à chaque persona, on a associé ce qu'on appelle un scénario diagnostique. Un scénario diagnostique, c'est l'histoire, une petite tranche de vie quotidienne de la personne. Donc là, Alice essaye de se connecter sur le site de l'IFE. Elle le fait depuis chez elle. La connexion marche pas très bien. Justement, elle le fait depuis son lieu de travail et la connexion ne marche pas très bien. Et il faut... C'est peut-être plus réaliste comme ça. Et puis, de toute façon, elle n'a pas le temps, elle a 36 000 trucs à faire. Et finalement, l'expérience utilisateur sur l'interface du site n'est pas optimale. Donc ça nous permet de poser les choses pour savoir voilà quels sont les problèmes à résoudre et voilà où on doit aller. C'est pas si simple que ça, parce que après il faut pouvoir se détacher un petit peu de ces personas pour lesquels finalement on a développé une certaine forme d'affection. C'est le problème de l'empathie. Et donc, il fallait s'en détacher un petit peu au début pour entrer dans une phase de créativité. La créativité, ça se travaille un petit peu. C'est pas juste... il faut qu'on imagine des choses merveilleuses. Et il faut qu'on le fasse dans un cadre. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon, des moments de brainstorming ou d'idéation. Mais c'est rien de magique. On met des post-it avec les idées qui nous passent par la tête. Puis ensuite, on les organise. La deuxième phase de travail, c'était de combiner et de hiérarchiser les besoins qui sont remontés à partir des personas, quels sont ceux finalement qui sont prioritaires aujourd'hui vu les délais impartis, etc. Et puis finalement, de mettre ces besoins hiérarchisés en miroir avec les solutions qu'on avait imaginées pour faire correspondre les deux et proposer enfin une solution ou des solutions qui soient viables. Et en fait, de solutions, on en a proposé trois. Trois solutions qui étaient organisées autour de cinq pôles qu'on a identifiés comme étant les endroits où le système d'information devait vraiment être amélioré. Donc améliorer la communication externe, repenser l'organisation de l'équipe en interne du côté de l'IFE, améliorer les interactions avec l'information, mais ça c'est pour tout le réseau, rationaliser le stockage, la diffusion de l'information et l'appareil pour tout le réseau, et puis pour l'IFE aussi jouer davantage le rôle d'interface. Et puis on a proposé ces trois solutions au comité de pilotage et ils ont fini par en retenir une, celle qui répond le mieux aux besoins actuels, voire urgents, pour dynamiser le réseau des Léa. Et c'est donc la solution tournesol. Alors, avant de laisser la parole à Sandrine, juste un petit mot sur pourquoi tournesol. Tournesol, c'est aussi le mot court pour désigner le soleil commun. Et symboliquement, c'était ça qu'on essayait de faire, c'est-à-dire une solution où le rôle d'interface était pleinement joué par l'IFE, mais où les acteurs avaient aussi la possibilité d'interagir beaucoup plus facilement avec l'information, et c'est ce que va vous présenter Sandrine.
Donc la solution, comme les trois solutions en règle générale, était là pour dynamiser un réseau. Un réseau en devenir, un réseau assez jeune, mais effectivement la question de la circulation de l'information au sein d'un réseau avec un point central, l'IFE, un porteur de projet, et ensuite tout un rayonnement d'acteurs, alors en plus dispatchés géographiquement, dispatchés aussi dans les questions de recherche, mais tous des gens liés par cette même volonté de faire vivre ce réseau. En gros, la solution tournesol qui est retenue, elle s'appuie sur deux outils centraux. Le premier, le site d'Eléa, que l'on a revisité, que l'on a essayé de repenser. Et ensuite, un deuxième outil qui aujourd'hui n'existe pas et qui fait écho à certaines choses qui ont été dites déjà ce matin, la question d'un blog. La question d'un blog au cœur de ce réseau, un blog participatif pour tous les acteurs du réseau. Donc, pour nous, dans cette solution, on a donc deux espaces. L'outil de travail, c'est effectivement le site institutionnel d'Eléa. Le site d'Eléa, il a aujourd'hui vocation à être une vitrine institutionnelle, quelque chose qui donne à voir du dispositif. Donc pour nous, c'est une information plutôt statique. On va montrer la maquette tout à l'heure. On est sur de l'information statique et on a rattaché à ce site, comme aujourd'hui, un espace privé pour les acteurs d'Eléa. Cet espace privé, nous l'avons effectivement repensé pour rendre les outils plus intuitifs et pour vous permettre d'avoir une interaction avec cet outil-là plus simple. Et ensuite, un deuxième espace de vie, effectivement un blog de recherche, un blog scientifique, qui est hébergé sur les carnets hypothèses.org. Je vous en dirai deux mots juste après. Le site. L'idée du site, pour la partie visible, la partie grand public, pour nous, l'idée, c'était de simplifier l'arborescence, de simplifier la vue et de permettre à chacun de retrouver l'information, en particulier quand on a entendu parler du dispositif et qu'on a besoin de savoir de quoi il retourne, de qui on parle, qu'est-ce qu'on y fait. Voilà, donc une arborescence simplifiée avec des questions sur le réseau. Donc le réseau, ce serait qui c'est, c'est pas cliquable. Hein. Le réseau, qui c'est, les publications, c'est qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'on peut trouver comme information sur ce réseau. Et ensuite, les outils, eh bien, c'est effectivement tous les outils qui sont mis à votre disposition, tant des outils méthodologiques que des outils administratifs. Voilà, ce serait effectivement repenser aussi l'arborescence et qu'est-ce qu'on peut trouver sur le site institutionnel. Et enfin, là, ce qu'on vous montre, c'est le fameux espace privé collaboratif, aujourd'hui qui existe déjà, et qui, suite au retour des enquêtes, vraisemblablement n'est pas utilisé en tant que tel, en tant qu'espace collaboratif. L'idée pour nous ici, c'était d'essayer de faire en sorte que cet outil remonte dans le côté outil de travail, avec justement au centre la possibilité d'être des acteurs, donc de penser en termes d'action. En gros, sur votre gauche, Tous les boutons, ce sont qu'est-ce que je fais quand je suis sur cet espace-là. Je peux donc modifier la page de mon Léa, qui est une action que vous avez tous eu à faire. Je peux déposer un document, les fameux journaux de bord et état des lieux annuels, je ne me suis pas trompée. Je peux gérer mes documents et je gère, quand je dis gérer, ça veut dire qu'est-ce que je rends visible seulement pour mon Léa, qu'est-ce que je rends visible pour le reste du réseau. Et enfin, on met à disposition également un forum avec effectivement une modération derrière et sur des sujets où là, on peut échanger entre Léa Note, on vous a appelé les Léa Note, hein, on vous le dit, entre Léa Note sur ben, j'ai eu tel problème avec la convention, comment vous l'avez réglé. Donc on est à la fois sur une réponse possible de l'IFE, mais également de chacun des acteurs. C'est « Ah, j'ai eu exactement le même problème, j'ai fait comme ça ». Voilà, un forum. Et ensuite, vous avez effectivement la possibilité bah, de consulter tous les documents qui sont afférents à ce réseau, tant pour au départ de l'IFE, c'est-à-dire toutes les conventions, la charte des référents, et également de consulter mais, les documents des autres Léa. Donc là, on est vraiment sur une ouverture et on fait réseau. Et on communique entre nous et on se montre ce qu'on a fait. Et ensuite, vous avez donc sur votre tableau de bord également, là, ce qu'on appelle de l'information en mode push. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller la chercher, elle vous arrive directement. On a donc l'intention de créer un réseau, d'être présent sur le réseau, par exemple, Twitter. Donc là, vous avez effectivement les derniers tweets qui remontent. Vous avez les derniers messages qui ont été postés sur le forum. Et vous avez aussi donc les derniers documents qui ont été posés, mais également une vue de ce qui se passe sur le fameux blog dont je vais vous parler maintenant. Le blog, pour nous, il a deux objets principaux. Donner à voir la recherche et vous donner un nouvel outil d'expression de cette recherche. Sur le blog, nous sommes hébergés sur les carnets d'hypothèses. Hypothèses, juste pour vous en dire deux mots, c'est une plateforme de publication de carnets de recherche en sciences humaines et sociales. Actuellement, la communauté française, c'est 200 carnets de recherche qui sont hébergés. Donc, ça n'est pas non plus anodin de faire une demande sur cette plateforme-là. C'est aussi bénéficier d'un autre réseau, un réseau de chercheurs. L'autre particularité des carnets d'hypothèses, c'est qu'ils sont développés sous un outil gratuit, open source, WordPress, qui est un outil assez reconnu pour sa simplicité d'utilisation, en particulier pour créer des blogs. Donc là, on est aussi sur un outil qui a été pensé intuitif et qui va normalement vous permettre, en tant qu'acteur, donc auteur, de prendre assez rapidement en main cet outil et de pouvoir contribuer à ce blog. En gros, le blog se présente sous la forme d'une colonne centrale avec le contenu, les articles, et ensuite sur les deux colonnes latérales, eh bien, une navigation soit intérieure, soit extérieure, par exemple en haut à droite, les sites amis, le fameux fil Twitter, et voilà. Et après, on navigue à l'intérieur du blog. On est sur des moteurs de recherche assez classiques. On peut rechercher un Léa par son nom, par son thème de recherche, par son auteur. Et donc là, après, on navigue en fonction, c'est de la catégorisation, mais voilà, c'est assez classique des blogs. Quoi dire aussi, juste vous dire que pour nous, les rencontres nationales, ce que nous vivons aujourd'hui, ça fait partie de la vie du réseau. Et pour nous, c'était quelque chose qui devait être présent sur le blog. Donc tous les travaux qui émergent de ces rencontres, il y a beaucoup d'écrits, ben, effectivement, ça se retrouverait ici pour nous, parce que c'est à donner aussi à voir sur la vie du réseau et sur la réflexion que vous menez. Pour nous, le plus important, c'est effectivement que chaque acteur du Léa devient un auteur potentiel, pas d'obligation dans la chose. C'est juste de dire que vraisemblablement, dans les interviews que nous avons faites, vous avez tous, et vous l'avez encore redit ce matin, des outils annexes avec lesquels vous travaillez dans vos laboratoires de recherche ou dans vos établissements scolaires, et qu'il y a déjà la possibilité, il y a déjà plein de choses qui sont écrites. L'idée avec ce blog, c'est de pouvoir rassembler les choses. Et en plus, par exemple, WordPress, juste pour l'aparté, WordPress offre la possibilité d'utiliser plein de petits plugins, c'était des petites applications supplémentaires. Une d'entre elles, qu'on a tout de suite mis en avant, c'est un plugin qui vous permet d'aller sur un site internet, de prendre la main sur un article qui existe déjà et qui a déjà été écrit, et de le rapatrier sur le blog de Léa. Par exemple, vous avez un blog
sur votre laboratoire de recherche. Vous avez déjà écrit l'article que vous avez envie de faire partager à tout le réseau. Vous, je prends, je fais copier-coller et ça réapparaît sur le blog de recherche d'Eléa. L'idée pour nous, c'est, là, on est vraiment sur la notion d'animation du réseau et vous êtes les principaux acteurs. Et je crois que j'en ai fini.
Conclusion rapide, parce qu'effectivement, il faut laisser un peu de temps pour les questions. Le vrai problème qu'on a eu à traiter, ce n'était pas tant faire du super design d'interaction ou utiliser de nouvelles fonctionnalités, c'était vraiment comment on peut faire réseau avec le numérique aujourd'hui. Et faire réseau, c'est le réseau spécifique d'Eléa, ce n'est pas n'importe quel réseau non plus. Donc on a assez vite compris et c'était peut-être l'enseignement le plus important de notre conduite de projet qu'il ne fallait surtout pas fétichiser les outils et les fonctionnalités, que ce qui était le plus important, c'était non seulement les usages, mais les usagers. Donc on a essayé de penser une solution qui soit en accord avec ça, mais c'est une proposition et c'est quelque chose qui continue de se faire avec vous, au même titre qu'on a fait une enquête, on a fait des personas et on est là aujourd'hui. Tout au long de la journée, il y a des tests utilisateurs, il y a encore quelques places pour ceux que ça intéresse de manipuler le prototype qui sera mis en ligne. Il y a également, on vous propose dans la pochette, un questionnaire à remplir autour du blog pour savoir si c'est quelque chose qui vous paraît pertinent ou non, si écrire dans un blog c'est quelque chose que vous avez jamais fait, que vous avez déjà fait, que vous auriez envie de faire, etc., pour quels usages. Ce serait très très intéressant pour nous d'avoir vos retours pour anticiper la préparation de cet outil-là. Oui, juste petite question triviale. Les tests utilisateurs de cet après-midi seront en salle 142 et pas dans la salle de réunion numéro 1 comme ce matin. Voilà, il faudra s'en souvenir. Et merci beaucoup de votre attention.
Tu n'as pas dit la suite.
Ah oui, pardon. Et donc.
Ben, dis-la, parce que...
Ok, alors, donc cette solution, elle a été présentée dans le cadre d'un master, d'un cours, mais elle est actuellement mise en place à l'IFE, et je suis en stage pour le faire, donc je travaille étroitement avec l'équipe technique pour essayer de rendre ça possible, et avec le comité de pilotage, évidemment.
Voilà. Et du coup, c'est Rita qui va analyser le questionnaire qui est dans vos, qui l'a conçu, qui va l'analyser, ce questionnaire qui est dans vos pochettes. Elle sera sûrement amenée, puisque vous avez bien compris, je pense, le souci de ce travail, c'est de rester bien au contact des utilisateurs, à proposer d'autres tests utilisateurs ou des interactions avec vous au cours de son travail, qui est un travail de 4 mois de stage de master qui poursuit le projet. Et qui est menée en collaboration avec Benjamin Abrial, qui est l'informaticien qui a construit le site de l'IFE, qui est responsable de faire cette mutation pour poursuivre donc ces préconisations qui ont été proposées. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour ou des remarques? On a un petit peu de temps. Tu voulais ajouter quelque chose?
J'avais une question concernant le blog donc sur hypothèse.org. Dans vos travaux, est-ce que vous avez, à part les acteurs que nous sommes, est-ce que je sais que ce blog peut être complètement public, et c'est dans votre idée, je pense. Est-ce que le public autre que nous, est-ce que vous l'avez identifié ou est-ce que vous avez réfléchi là-dessus?
Alors, effectivement, dans le temps qui nous était imparti, il était important qu'on se centre sur vous. Mais il apparaît clair que pour le commanditaire qu'est l'IFE, la question de la diffusion de la recherche était au cœur des préoccupations. Et qu'effectivement, la question de la rendre publique faisait aussi partie des choses demandées. Donc, effectivement, les carnets hypothèses sont publics. Ça fait partie d'une grande démarche d'open source en plus. Donc, au contraire, ils ont beaucoup de mal avec tout ce qui est privé et où on limite les accès. Donc, c'est aussi pour ça que, pour nous, c'est important que ce soit aussi sur hypothèse. Ça va dans le sens de la diffusion souhaitée de la recherche-action que vous menez chacun de votre côté.
Il y a... Oui, une autre question là-bas.
Oui, bonjour. Je ne sais pas à qui s'adresserait la question, mais est-ce qu'il est prévu
à définir avec nous ce que pouvait être l'ELEA. On pense que c'est une bonne idée, mais dans l'état actuel des choses, ce n'est pas facile de créer des revues. Et il y a déjà pas mal de choses à faire pour essayer de faire tourner ce réseau, etc. Donc on pense que c'est une bonne idée, mais pour l'instant, ce n'est pas pour tout de suite. Et puis on va voir aussi ce que donnent ces outils. Si le blog ne peut pas tenir lieu d'une sorte de revue déjà plus actuelle, un peu différente, plus libre aussi, peut-être qu'une revue qui... un comité de lecture, etc. Voilà. Il y a aussi l'idée peut-être de repérer et d'aider à émerger des travaux qui ont lieu dans l'ELEA pour qu'ils soient publiés dans des revues, alors des revues de l'IFE ou d'autres revues, et de repérer leurs publications sur les outils du réseau. Je ne sais pas si ça répond bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, idées ? Oui.
Oui, moi je voudrais savoir si au niveau du blog, vous avez imaginé la capacité de synthétiser en fait toutes les contributions, parce que finalement, si c'est ouvert à tous, il peut y avoir des contributions multiples, mais il peut y avoir aussi des contributions qui vont toutes dans le même sens et qui vont contribuer à soit faire émerger des idées, soit capitaliser sur un sujet. Est-ce que vous avez pensé à avoir... Alors, ce n'est pas un modérateur, je pense que c'est vraiment encore autre chose. Quelqu'un qui rendrait visible une sorte de synthèse des différentes contributions.
Il y a la navigation par catégorisation qui permet de savoir tous les articles qui ont été écrits sur tel ou tel sujet, donc ce qui constitue une synthèse en soi, mais si vous voulez, elle se fait de manière automatique du moment qu'on rentre les bonnes catégories. Et puis, on a aussi pensé dans la solution Tournesol à l'outil newsletter, une newsletter qui serait... basé sur les productions du blog, qui serait organisé. Alors j'ai un mot qui me vient pas en français, qui serait non mais disons synthétisé pour pouvoir être un peu prédigéré, pour être présenté directement à la lecture. Genre bon là ce mois-ci il y a eu beaucoup d'articles autour de cette question, celui-là il va dans cette direction-là, celui-là il va dans cette direction. C'est encore en étude, donc je m'avance pas trop là-dessus, mais il y a cette possibilité effectivement, oui. Ouais, ouais.
S'il y a quelqu'un pour son...
C'est ça la question.
Je pense qu'il faut le dire. Hein, c'est... Non,
voilà. Dans les préconisations qui ont été faites, j'ai envie de dire que si le blog devient un outil dont vous vous saisissez et qu'effectivement on se retrouve dans un cas de figure comme celui-ci, à charge pour l'IFE et pour le dispositif, de se munir de personnes pour faire vivre un réseau. C'est-à-dire que, à un moment, si le réseau densifie, il y aura besoin.
Je prends la parole juste une minute pour revenir sur le site que vous avez présenté, parce qu'hier, oui, on a eu la chance d'avoir une présentation, oui, un peu plus détaillée au comité, oui, de pilotage. Et parce que je ne sais pas si ça a été évident pour tout le monde, oui, mais ce que j'avais trouvé vraiment super, hein, oui, c'est que finalement, quand vous allez vous connecter, vous allez, grâce à votre identifiant, vous allez arriver directement dans votre page personnelle, sur votre propre tableau de bord. Vous voyez, ça va être complètement différent de ce qui se passe actuellement. Donc, vous allez vraiment trouver en direct les informations qui vous concernent. Et ça, je trouve que c'est un plus extraordinaire. Deuxième plus, vous rappelez, quand vous vouliez faire vos pages web, il fallait que vous signaliez à Réjeanne ou à Nicolas, etc. Bon, ça y est, c'est OK, je l'ai rempli, vous pouvez publier tout. Vous imaginez le nombre d'échanges que ça nécessitait et comment ça pouvait mobiliser Réjeanne et Nicolas. Là, effectivement, il y aura une page, hein, qu'on a vue hier, hein, où vous pourrez choisir de publier juste à l'interne de votre Léa ou à l'interne du réseau. Donc tous ces outils vont quand même être très très facilitateurs. Et on espère aussi, par exemple, pour l'état des lieux annuel, que ce soit quelque chose qu'on puisse faire en ligne, de manière assez dynamique, et que là, du coup, les synthèses se fassent aussi de façon beaucoup plus simplifiée. Donc je crois que si on arrive au bout du projet, mais là, vu la présentation excellente que vous avez faite et la clarté de votre exposé, je pense qu'on peut vraiment y croire et on va pouvoir disposer d'un outil qui sera vraiment beaucoup plus facile et qui permettra au réseau de, effectivement, c'est la thématique d'aujourd'hui, d'être beaucoup plus dynamique.
Merci à vous.